Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, c'est une page d'histoire douloureuse dont on va parler. La mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, c'est un sujet longtemps, vous le savez, resté tabou. L'historien Benjamin Stora vient donc de remettre un rapport très attendu au président de la République Emmanuel Macron. Plus de 90 pages avec une série de propositions très concrètes pour réconcilier les mémoires. Alors, est-ce nécessaire? Est-ce que ce sera suffisant ou faut-il aller plus loin? Quelle place aussi pour la repentance qui fait beaucoup débat? On en parle ce soir avec nos invités Naoufel Brahimi El Mili. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po Paris et auteur du livre « France-Algérie, 50 ans d'histoire secrète », tome 2, aux éditions Fayard. On en parle également avec Raphaël Branche. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre, auteur de « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» C'est une enquête sur un silence familial aux éditions La Découverte. Et on en parle également avec l'écrivain essayiste Pascal Bruckner. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
D'abord, pourquoi cette partie de notre histoire, je vous pose la question un peu naïvement, est si longtemps restée tabou et pourquoi, 60 ans après, on a toujours autant de mal à en parler? Raphaël Branche.
Je ne suis pas sûre de partager votre diagnostic, en fait. Je ne suis pas sûre du tout qu'il s'agisse d'un tabou et encore moins qu'on ait du mal à en parler. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à votre question. Non, en fait, je pense qu'on en parle beaucoup. On en parle vraiment beaucoup. On en parle
de plus en plus.
On en parle depuis une vingtaine d'années, vraiment de plus en plus. En 1999, on a enfin appelé guerre ce dont il s'agissait en Algérie et ça a changé beaucoup de choses en réalité.
Oui, vous pensez que c'est plus un sujet tabou aujourd'hui, la colonisation et la manière dont on en parle.
Tabou pour qui?
Côté français, côté rapatrié, côté harki, côté algérien?
Moi, je ne crois pas. Je crois que le tabou fait appel à d'autres choses.
Naoufel Brahimi El Mili?
Je dirais pas tabou. En revanche, je dirais que c'est un sujet qui est abordé d'une manière assez peu sereine.
Oui.
Il y a des patients qui ne se sont jamais tus. Et l'un des moments forts de ces passions-là, c'est la loi de février 2005, où les élus de la République ont voulu adopter une loi pour faire reconnaître les bienfaits de la colonisation.
Oui.
À partir du moment où les politiques veulent écrire l'histoire, l'histoire devient un sujet politique, forcément, et a fortiori, quand il s'agit de l'Algérie, parce qu'il faut rappeler, aujourd'hui, au moment où on parle, il y a 7 millions de personnes résidant en France qui ont une équation algérienne.
Oui.
Par équation algérienne,
j'entends
pas...
Ce sont des pieds noirs, des immigrés, des militaires,
pieds
des harkis.
Voilà, les militaires. Et en plus, leurs enfants. D'où le documentaire « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?»
Oui. Vous, Pascal Bruckner, quel est votre regard aujourd'hui sur la manière dont on en parle et sur cette prise de conscience qu'évoquait à l'instant Raphaël Branche? Est-ce que vous considérez que voilà, c'est encore un sujet problématique, encore un sujet tabou, ou on en parle au contraire librement?
Non, moi je suis assez d'accord avec Raphaël Branche, ça n'est pas un tabou. Alors si c'est un tabou, c'est un tabou dont tout le monde parle. Il y a eu sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, je crois 3 000 à 4 000 livres publiés, des films... des documentaires,
oui.
Donc si ça c'est un tabou, c'est vraiment un tabou d'exposé, dévoilé en plein
question,
jour.
Ma question n'était pas de dire que c'est encore un tabou aujourd'hui, ma question était pourquoi ça a été si longtemps tabou?
Ah, ça a été très longtemps tabou parce que la France et l'Algérie se regardaient en chien de faïence, d'ailleurs. Les deux États continuent à le faire en tout cas, mais ce qui est vrai c'est qu'en 2005, comme ça vient d'être évoqué, lorsque le gouvernement a voulu établir le caractère positif de la colonisation, on s'est retrouvé un peu dans la situation de l'Union soviétique.
Oui.
Ça n'est pas à l'État et au gouvernement de dire la vérité, c'est aux historiens. Et moi, je crois beaucoup à l'importance pour les historiens d'écrire l'histoire. Et je pense qu'il est plus important de faire une histoire détaillée et précise de part et d'autre de la Méditerranée plutôt que de vouloir réconcilier des mémoires, car il y a tant de mémoires diverses que les réconcilier me paraît difficile. Par contre, écrire l'histoire de cette guerre dans ses aspects les moins glorieux de part et d'autre,
oui.
ça me paraît indispensable.
Alors, on va en parler parce qu'il y a tout un tas de mesures qui sont proposées par le rapport Stora, justement, de Benjamin Stora, qui vont dans ce sens. Vous êtes d'accord d'abord avec ce que vient de dire Pascal Bruckner, Raphaël Branche? On ne peut pas écrire une histoire commune?
Alors, j'ai pas vraiment complètement entendu ça. Je pense qu'effectivement...
On ne peut pas réconcilier les mémoires.
Voilà,
on ne peut pas écrire...
Mais vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose.
Il y a des histoires, nous dit Pascal Bruckner. Il n'y a pas une histoire.
Voilà, les mémoires sont par définition différentes. Elles ont à voir, elles s'ancrent dans des expériences qui sont différentes, qui sont parfois opposées et qui ont parfois été ennemies. Et elles s'ancrent dans des présents qui peuvent être différents aussi. Donc, par définition, les mémoires tiennent des discours sur le passé qui sont parfois irréconciliables.
Oui.
L'histoire, c'est autre chose. L'histoire, c'est un métier, c'est une profession, c'est celle que je fais. Et on essaye de tendre à la vérité. Et on peut espérer un récit historique que tout le monde puisse entendre.
Une question, puis on va marquer une première pause, Naoufel Brahimi El-Mili. Pourquoi ce rapport est-il si important et si attendu ?
Il est si important et si attendu. D'abord, la personnalité de l'auteur, Benjamin Stora, est un historien reconnu, notamment sur le sujet.
Oui.
Ça fait 40 ans...
Non, mais au-delà de ça, ça veut dire que quand même, il reste un boulot considérable à faire.
Oui, ça fait 40 ans qu'il travaille sur le sujet. Oui. Il a plus de 40 ouvrages. Donc, c'est le meilleur choix. Et ensuite, il est attendu notamment à cause d'une équation politique introduite par Emmanuel Macron, candidat, lors de son passage à Alger. Il a dit « la colonisation est un crime contre l'humanité ».
On l'écoutera, oui.
Voilà. Donc, il y a ça. Et il faut dire pourquoi ce travail était attendu. C'est plus tard. Emmanuel Macron a donné une lettre de mission le 24 juillet à Benjamin Stora. Mmh. Les rapports étaient attendus fin décembre. Bon, nous sommes le 20 janvier. Ça a été remis le 20 janvier, peu importe. Et je dirais parce que c'est très difficile de réconcilier les mémoires.
Oui.
Benjamin Stora dit toujours « apaiser les mémoires ».
Oui.
C'est différent.
Oui, on continue d'en parler dans quelques secondes, maintenant qu'on a posé un premier constat, et puis on s'intéressera à ces propositions et ces mesures tout à fait concrètes dans ce rapport de 90 pages. À tout de suite, 19h28.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, et c'est la suite du grand débat du Club des Idées. On parle ce soir évidemment de ce rapport de Benjamin Stora, l'historien qui vient de remettre au président de la République un rapport très attendu sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, avec tout un tas de propositions tout à fait concrètes. On va en parler avec nos invités. D'abord, vous faisiez référence, Naoufel Brahimi El-Mili, à ce qu'a dit Emmanuel Macron quand il était candidat à l'élection présidentielle. C'était en 2017, à la télévision algérienne, il avait dit ceci.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes.
Il avait raison de dire ça, Raphaël Branche, professeur d'histoire contemporaine. Il avait raison de parler de crimes contre l'humanité. Ça avait beaucoup, beaucoup fait réagir à l'époque.
Alors, s'il avait raison, c'est une question compliquée, le crime contre l'humanité, puisque c'est une catégorie juridique qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'appliquer à des événements antérieurs,
aussi.
C'est compliqué.
C'est un message politique.
C'était assurément un message politique. En Algérie, je suis accompagné d'un meilleur spécialiste que moi sur cette question, mais en Algérie, la question de l'usage du mot a été est très ancienne. Hein, et très clairement, en faisant ça, il reprend un mot qui était...
Je vais vous demander de vous mouiller un petit peu, parce que je vous pose une question un tout petit peu plus large sur la place de la repentance et le rapport au mea culpa collectif. C'est une façon aussi de s'excuser quand même des crimes qu'a fait la France en Algérie, cette façon d'en parler, de crimes contre l'humanité. Est-ce qu'il a raison, le président, d'en parler en ces termes?
Alors encore une fois, je pense que la question de la qualification, c'est un autre problème, mais faisant ça, effectivement, il fait quelque chose de très fort. Je ne suis pas sûre qu'il s'excuse en faisant ça. Les mots sont différents, mais très clairement, il va très loin.
Je vous pose la question parce que Benjamin Stora, dans son rapport, dit « les discours d'excuses, c'est bien, mais ça ne suffit pas à calmer les mémoires blessées ». Votre avis, vous, Naoufel Brahimi El-Mili?
Oui, déjà, le mot « excuse » était dans la déclaration de Macron candidat.
Oui.
Déjà. Et Benjamin Stora, dans son rapport, il évoque l'exemple Japon, Chine, Japon, Corée. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'excuses, ça ne servit à rien. Bon,
absolument.
La France et l'Algérie ne sont ni le Japon, ni la Chine, ni le Japon, ni la Corée. D'une part, il faut rappeler les 7 millions qui résident en France, donc ça fait plus de 10% de la population.
Oui.
Ce n'est pas le cas dans ces trois pays asiatiques. Ce que Benjamin Stora a fait...
Oui, dans un travail de devoir de mémoire, pardon d'appeler ça comme ça, mais la repentance, elle est nécessaire ou pas? Parce qu'il y a un débat aujourd'hui en France là-dessus.
Je fais la distinction entre repentance et excuse.
Oui, ça n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. D'autant plus que la repentance, c'est un mot très fort et connoté religieusement, ça biaise le débat. Les excuses, c'est autre chose. Mais quand on voit l'histoire de la colonisation française, il n'y a jamais eu d'excuse. Et le moment où on y a cru furtivement, juillet 2005, Jacques Chirac à Madagascar.
Oui.
Il a parlé des dérives du colonialisme. Madagascar, 47, oui. Selon le rapport de l'Assemblée nationale de l'époque, 89 000 morts. Le discours de Jacques Chirac parle de 15 000 morts, peu importe les chiffres. Oui. C'est une polémique. Mais toujours est-il, mais les Malgaches, qui ont leur mémoire, n'ont pas le poids sociologique et politique qu'a l'Algérie en France. Et aussi, le gouvernement malgache, là je parle politique, était en position de faiblesse. Jacques Chirac était parti, où il a aussi annoncé l'effacement d'une dette de 50 ou de 60 millions d'euros.
Mais donc pour
d'euros.
Les Algériens, les excuses, elles n'ont jamais été prononcées, c'est ce que vous voulez dire?
Jamais.
Jamais, jamais. Elles devraient l'être.
Oui.
Oui. Pascal Bruckner, votre avis sur cette question de la repentance et des excuses?
Alors, je crois qu'en 2005, Benjamin Stora évoquait le manque d'enthousiasme des autorités algériennes devant le mea culpa des généraux français. Donc, il y a deux ou trois difficultés. La première, c'est qu'on ne connaît pas la position d'Emmanuel Macron. Macron est quand même une sorte de personnage très fluide qui change. Il parlait en Algérie d'excuses. Maintenant, il ne veut plus de repentance ni de pardon. Il veut une réconciliation. Donc, il est difficile de savoir ce qu'il pense, car lui-même ne semble pas savoir exactement comment aborder ce problème.
Oui.
Et puis, c'est quand même un peu embarrassant. D'autre part, est-ce que l'Algérie reste une passion française? Honnêtement, je ne le pense pas. Je crois que si vous intéressez la jeune génération, et même déjà ma génération, la colonisation était un projet tellement aberrant qu'on ne comprend même pas aujourd'hui comment nous avons pu nous fourvoyer dans cette aventure malheureuse. Et la difficulté, à mon sens, c'est que si l'Algérie n'est plus une passion française, sauf chez quelques nostalgiques, la France reste une passion algérienne. C'est-à-dire que l'Algérie contemporaine se définit essentiellement contre Paris. Je crois que dans l'hymne national algérien, la France est encore désignée comme l'ennemi, non, près de 60 ans après. Et là, il me semble que c'est la difficulté. Alors, et là, même si la France présentait ses excuses, l'Algérie continuerait à la considérer comme en dette vis-à-vis d'elle.
Moi, j'ai une question très précise à vous poser, les uns et les autres, très terre-à-terre, d'une certaine manière, pour que chacun et nos auditeurs qui suivent ça de loin, comprennent aussi de quoi il en va. Et, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de cohésion nationale à apaiser les générations d'Algériens, de Français pieds noirs, rapatriés, qui aujourd'hui ont toujours du mal à aborder cette histoire aussi, parfois dans leur famille, avec une certaine rancœur? Et je voudrais m'appuyer sur un élément qui peut paraître anecdotique, et vous allez me voir si vous êtes d'accord. La Marseillaise sifflée par les supporters algériens lors d'un match de foot, souvenez-vous. Voilà, c'était en 2001, on entend les sifflets, Jacques Chirac était furieux, il avait tourné les talons, si je me souviens bien.
C'était il n'était pas au stade.
Il n'était pas au stade.
C'était Jospin et Buffet,
vous avez
ministre
raison.
Des Sports.
C'est un match amical qui a été stoppé à la 76e minute. Est-ce que cet événement est aussi d'une certaine manière le symbole de cette distance qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les enfants de deuxième ou troisième génération d'Algériens et les Français?
Puisque foot, il y a, depuis 2001, un grand match. Même quand l'Algérie ne joue pas, on voit les drapeaux algériens qui circulent. Donc ça, c'est devenu une constante. Mais indépendamment du foot, qui a une forte connotation politique, et...
Mais c'est ça aussi l'enjeu de ce qui se joue en ce moment ?
Non, on a parlé d'échecs, d'intégration, on a donné toutes les explications. Mais à l'époque de cet incident, entre guillemets, personne n'a parlé de mémoire en 2001. En 2001, la mémoire, suite à cet événement, c'était pas un sujet. Et juste, je souhaite revenir sur les généraux qui ont fait leur mea culpa.
Oui.
Je ne vois pas lesquels. Je rappelle la même période, 2005, il y a eu le général Ossarès qui a publié ses mémoires. Il a été condamné pour apologie du crime. Il y a eu le général Massu qui a publié son livre avant. Il n'a pas fait aucun d'entre eux n'ont fait de mea culpa.
Oui. Votre avis, Raphaël Branche, pour revenir à cet enjeu de cohésion nationale, il est important aussi dans ce travail de mémoire avec ce rapport Stora ?
Alors oui, je pense qu'il est crucial, vous avez raison d'insister dessus, parce qu'on a, au moins deux directions, en fait. Il y a l'Algérie, on ne sait pas très bien de qui il s'agit, le gouvernement algérien, l'État algérien, le peuple algérien, ce n'est pas du tout la même chose. Et la France, les Français, et là aussi, il y a plusieurs groupes, hein, et qui ne sont pas que des groupes porteurs de mémoire, qui sont, voilà, comme vous l'avez dit, des gens qui nous écoutent, qui n'ont aucun lien personnel avec l'Algérie, mais qui savent que quand même, l'Algérie, ça gratte et ça démange quelque part en France. Donc oui, il y a quelque chose... très important à ce qu'il y ait quelque chose de clair qui soit énoncé sur les responsabilités de la France, sur son histoire qu'elle doit assumer. Je pense que c'est très clair et c'est pour ça que le cadre, la définition dans la mission du rapport Stora était intéressant. C'était pas la guerre d'Algérie, c'était la colonisation. Et donc c'était toute la séquence dont on porte encore les héritages dans la France d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui doit être assumé. C'est-à-dire que le discours qui est tenu aujourd'hui, c'est un discours politique, oui, évidemment. Oui. Et donc, c'est un discours au présent. Et donc, on ne s'adresse pas qu'au passé et à des gens porteurs de mémoire d'un passé.
On va se projeter avec les propositions de ce rapport Stora, notamment l'enseignement de la guerre d'Algérie et de la colonisation à l'école. À tout de suite, 19h40.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, on poursuit le grand débat du Club des Idées avec ce soir l'historien Benjamin Stora qui vient donc de remettre son rapport très attendu au président de la République Emmanuel Macron pour tenter de réconcilier les mémoires, même si l'expression parfois fait débat, de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Alors, je voudrais qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet avec ces propositions, il y en a un certain nombre très concrètes, comme renforcer l'enseignement de la guerre d'Algérie dans les programmes scolaires et de la colonisation. Aujourd'hui, il est enseigné dans les programmes d'histoire de première générale, cette colonisation et cette décolonisation, ça représente à peu près 7 à 8 heures par an. Ça n'est pas énorme, on verra ce que vous en pensez dans un instant les uns et les autres. Je voudrais simplement avant vous faire partager cet extrait de témoignage d'un professeur en collège-lycée de Seine-et-Marne. Quand il aborde cette question de la colonisation, il l'aborde avec beaucoup de précaution. Voilà ce qu'il dit.
Je suis plus précautionneux pour deux raisons. D'une part parce que je suis moi-même fils de pied noir. Deuxièmement aussi parce que c'est vrai que c'est une question qui touche de nombreux élèves directement. Quand je vais aborder par exemple les divisions entre les Algériens, qu'on aborde la notion des harkis, très souvent j'ai des élèves qui vont être assez véhéments en disant « oui, les harkis sont des traîtres, etc. » Ce qui est difficile pour le prof d'histoire, c'est essayer de sortir voilà, à nouveau de cette caricature-là.
Voilà. On rentre vraiment dans le cœur du sujet, parce que là, on est exactement dans l'héritage de cette histoire commune-là. Alors ça, c'est monsieur le professeur. Et puis après, il y a les élèves qui en parlent, notamment d'origine algérienne. Et ils disent ceci.
Dans les livres, ils minimisent un peu ce qu'ils ont fait. Ils ne parlent pas des femmes violées, des maisons brûlées, tout ça. C'est les amis, c'est les tantes, les grand-mères, ma mère. Ouais, c'est eux qui m'ont appris tout ça.
On est obligé de suivre le programme, quoi. On ne peut pas dévier, quoi. Ils nous sortent ça, à chaque fois, les profs. On n'est pas d'accord sur tout, quoi.
C'est très concret ça, Raphaël Branche, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris-Nanterre, vous connaissez bien cette question de la colonisation et de l'Algérie. Renforcer l'enseignement de cette période-là, c'est une bonne idée ?
C'est toujours un peu compliqué, oui, c'est toujours une bonne idée de renforcer l'histoire, mais il y a déjà beaucoup
c'est
de place faite à
l'histoire. C'est pas beaucoup, 7 ou 8 heures par an quand même.
Oui, mais il y a énormément de choses à raconter, beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses fondamentales pour l'identité des Français. Si on pense que l'histoire a cette vertu et cette vocation, ce dont je ne suis pas complètement sûre, mais en tout cas... C'est déjà là, et c'est mieux qu'avant.
Hein, mais vous avez vu 60 ans après ce que continuent à dire les professeurs
mais non, mais tout à fait,
et les jeunes élèves.
Je veux tout à fait, si vous m'autorisez, commenter ce que vous avez passé, parce que c'est passionnant. En revanche, là où je suis complètement Benjamin Stora, c'est pour les lycées professionnels. Et pour la dimension optionnelle de cet enseignement dans le lycée général. Mais effectivement, ça serait bien qu'on assume que c'est un des éléments importants de
comment
l'histoire française.
Comment est-ce qu'on vient d'entendre, alors ?
Dans ce qui vient d'être... Moi, j'interviens assez souvent auprès des enseignants, dans les formations des enseignants. Et j'interviens aussi souvent dans les collèges ou les lycées pour accompagner une exposition qu'on a faite qui vise à raconter la colonisation et la guerre d'Algérie. Et ce qu'on a entendu est tout à fait à l'image de moi, ce que j'entends. C'est-à-dire beaucoup de récits familiaux qui viennent contredire ou contrarier ce que les enfants entendent à l'école, ce que les élèves entendent à l'école. Et c'est heureux qu'il y ait une parole scientifique qui puisse être délivrée et mise en comparaison de ce qu'ils entendent
mais
à la maison.
Mais est-ce que factuellement, quand ce jeune lycéen dit ce qu'on nous raconte à l'école, ben c'est un peu minimisé par rapport à la réalité des faits. Est-ce qu'il a raison factuellement, Naoufel Brahimi El-Mili ?
Factuellement, il n'a pas forcément tort.
C'est une réponse de Normand, ça.
Oui. Ce que ce jeune n'a pas dit, parce qu'il ne sait pas, son grand-père, s'il avait été à l'école, on lui aurait enseigné nos ancêtres, les Gaulois. Donc, on revient de loin.
Il y a une évolution.
Il y a une évolution.
Alors, votre avis, vous...
C'est parce que dans tous les pays africains, nos ancêtres, les Gaulois, c'est devenu un gag.
Est-ce qu'il faut renforcer l'enseignement de la colonisation à l'école, comme le préconise le rapport Stora?
Oui, il faut renforcer l'enseignement. Le tout, c'est de trouver le temps juste, ce qui est difficile, parce qu'il y a des vérités historiques. Mmh. Et ensuite, comment équilibrer un tel enseignement? Comment équilibrer un tel enseignement? C'est ça la difficulté. Oui. C'est parce que le jeune qui veut entendre les femmes violées et les maisons brûlées,
oui,
ça s'est passé, personne ne le nie.
Oui.
Mais il n'y a pas que ça.
Oui.
Il y a aussi...
Donc c'est une question d'équilibre.
C'est une question d'équilibre. Le plus important,
c'est ce que dit Benjamin Stora, d'ailleurs.
Où est-ce qu'on met le curseur?
Alors, Pascal Bruckner, vous êtes toujours avec nous, essayiste, philosophe. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette idée de renforcer l'enseignement? Et puis, plus largement, à multiplier aussi, parce que c'est ce qui est dit dans le rapport, les hommages, les commémorations, panthéoniser, pourquoi pas, Gisèle Halimi, qui avait fait son combat contre le colonialisme et la guerre d'Algérie. Est-ce que ça peut aider à réconcilier les mémoires?
Moi, je pense que la France doit évidemment reconnaître ses crimes et condamner l'aventure coloniale qui a été l'occasion de honte et d'abomination. Mais concernant l'Algérie, si l'on veut faire l'histoire, il faut faire une histoire équitable, c'est-à-dire reconnaître les fautes de part et d'autre, car il ne faut pas oublier que la guerre d'indépendance en Algérie a été aussi une guerre civile qui a eu un affrontement impitoyable entre le FLN et le MNA de Messali Hadj. Donc, il faudrait aussi faire le bilan de l'indépendance algérienne depuis 60 ans. Qu'est devenu ce régime dont la seule raison d'être semble être, depuis 1962, la dénonciation de la France pour expliquer tous les échecs? Donc moi, je crois que l'enseignement de l'histoire dans les écoles doit avoir pour but une simple chose, aidez-nous à divorcer, c'est-à-dire l'Algérie a acquis son indépendance, c'est une excellente chose, mais on a l'impression que le pouvoir algérien, je ne parle pas du peuple, mais le pouvoir algérien n'arrive pas à se défaire de l'obsession française. Et moi, c'est ça qui me frappe quand j'entends les officiels algériens parler.
Bien sûr, mais là, je suis plus sur les résonances chez nous en France pour réconcilier les jeunes générations de descendants d'Algériens ou encore les jeunes générations de descendants de harkis, de rapatriés, de pieds noirs. C'était plutôt dans ce sens-là ma question, Pascal Bruckner.
Oui, mais est-ce que vraiment c'est la guerre d'Algérie qui divise les gens, ou est-ce que c'est des situations singulières? Est-ce que c'est pas le problème de la religion musulmane qui fait problème? Et moi, ce qui me frappe, c'est que pour la majorité du peuple français, la question coloniale n'est pas une question centrale. C'est qui le traumatisme pour nous Français, c'est les deux grandes guerres mondiales. La colonisation, c'est oui, tout le monde considère que ça a été une énorme erreur, mais ça n'est pas l'obsession du pays. L'obsession du pays, c'est vraiment la défaite de 40, la guerre de 14. Et je suis frappé de voir que ce débat sur la colonisation reste quand même très minoritaire dans le pays.
Bien, merci Pascal Bruckner, vous restez encore avec nous. On ne va pas commenter tout ce que vient de dire Pascal Bruckner, mais il y a quand même un élément, on peut mettre les pieds dans le plat, Raphaël Branche, il y a quand même un élément, est-ce que ce manque parfois de sentiment de cohésion nationale avec les enfants de troisième génération qui ne se sentent pas appartenir à la patrie, à la République française, c'est un état de fait qu'on observe notamment, on l'a passé tout à l'heure avec la Marseillaise sifflée, est-ce que c'est dû à cette mémoire collective, à cette mémoire collective et à cette histoire qui n'est pas réglée avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a un effet de causalité?
Alors, il n'y a aucune étude qui permet de répondre à votre
Mais
question
vous,
et
votre
aucune
sentiment.
Étude qui permet de dire, comme vous l'avez dit, les enfants de troisième génération ne se sentent pas. Je pense qu'on peut...
Non, certains,
pas
évidemment.
Du tout. Mais oui, je suis désolée, mais vraiment, je pense que c'est exactement de ces amalgames que certaines personnes souffrent.
Oui.
Donc précisément, il faut dire que voilà, il y a des problèmes d'appartenance, il y a des appartenances multiples qui doivent pouvoir être assumées sans que ce soit des souffrances. Et écouter ce qui est dit. Moi, quand on va dans les classes et qu'on entend les enfants dire « et ma grand-mère m'a dit », etc., ben voilà, on peut, et les enseignants le font, écouter et essayer de rendre un peu de légitimité à ce point de vue. Ce qui n'est pas, pardon de reprendre sur ça, ce qui n'est pas dire de part et d'autre. Comme si on devait donner des bons points et dire « bon alors, nous, les Français, c'était pas bien, mais les Algériens, c'était pas tellement mieux ». Il y a quand même derrière le colonialisme qui fait que nous n'étions pas à égalité, les Français, face aux Algériens indépendantistes.
Pardon, mais là aussi, on est dans le cœur du sujet, Naoufal Brahimi et El Mili, parce que c'est un des marqueurs de fracturation entre les différents peuples qui ont vécu cette guerre d'Algérie et la colonisation. Il y a eu une concurrence victimaire pendant longtemps, où chaque groupe de mémoire, j'allais dire, érigeait sa blessure comme supérieure à l'autre.
Oui.
C'est ça aussi qui fait qu'on n'a jamais réussi à réconcilier cette histoire-là.
Je prends la liberté d'évoquer le côté algérien. Jusqu'au départ, plus ou moins volontaire, de Bouteflika, le pouvoir algérien avait une rente mémorielle.
Oui.
Voilà. Et là, le changement, c'est qu'il y a eu cette révolution qu'on appelle le Hirak, aussi en Algérie, aussi bien en France. Ce qui m'a frappé dans ce Hirak-là, c'est qu'on brandit les portraits des héros de la Révolution. Donc, chez cette génération, ce mouvement qui veut un changement profond reste rattaché à la Révolution algérienne. Donc, il ne faut pas dire que c'est une obsession du pouvoir. Mmh. Le pouvoir s'en était servi, c'est une rente mémorielle, ça a duré 50 ans, 55 ans, 60 ans, peu importe. Mais là, on a affaire à un mouvement qui s'émancipe de ce pouvoir-là.
Oui.
Et qui se revendique de ces héros de la Révolution. Il faut le noter. Il faut pas dire que la population algérienne n'est pas concernée par son histoire. Bien sûr, quand je dis la rente mémorielle, je peux rajouter cette rente mémorielle à aussi reposer sur une histoire officielle.
Oui. Alors, il y a plein d'autres, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Il y a plein d'autres propositions, hein, renommer certaines rues, créer des lieux de mémoire, de nouvelles cérémonies, la création aussi d'une commission mémoire et vérité chargée d'impulser des initiatives communes entre la France et l'Algérie, ou encore rapprocher la jeunesse des deux pays, notamment avec des visas entrées multiples. Voilà toutes les propositions, en certaines en tout cas, que propose le rapport Stora. Merci d'avoir partagé avec moi ce débat sur la mémoire importante de la colonisation et de la guerre d'Algérie. On aura évidemment l'occasion d'en reparler, puisque c'est une boîte à idées. On verra ce que le président décide avec l'ensemble de ces mesures proposées par Benjamin Stora. Merci à vous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.